Extrait de La belle amour humaine de Lionel Trouliot.
J'ai marché dans le village. Je n'ai pas senti de violence ni de curiosité déplacée dans les regards. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais j'imagine qu'il est rare de se retrouver dans un lieu inconnu en étant d'une autre culture, d'une autre couleur et de se sentir accueilli comme si sa présence sur cette nouvelle terre était une chose naturelle, une chose simple allant de soi comme le lever du jour ou le coucher du soleil. C'est moi, toute seule, qui ai fait l'effort de me rappeler que j'étais étrangère, pour ne pas faire comme si j'avais tout compris. Avant même de prendre l'avion, je me doutais bien de l'impossibilité de mesurer l'écart entre ma ville et la tienne. Quand tu me dressais l'inventaire des bruits de la rue, je m'étonnais que les avertisseurs soient pour vous plus efficaces que les feux et de mille autres petites choses. J'ai réalisé aussi que le pain du jour n'est pas chose gagnée pour tous. Ici, les choses dont vous devez manquer, je ne parviendrai même pas à les énumérer. Ici, dans le village, rien qu'en marchant, j'ai pu constater tout ce vide à l'intérieur des maisons. Je ne puis être qu'étrangère à cette pauvreté, mais l'envie m'est venue d'entrer dans les maisons. Les regards m'y invitaient. J'ai reconnu celle de Justin, solitaire au bord de la grande route. J'ai frappé à sa porte et il m'a invité à entrer. Nous sommes assis sous la galerie et il m'a offert de son thé de corossol. Je ne connaissais pas ce fruit. Je m'attendais à un vieil homme. L'idée qu'on se fait de la sagesse, c'est un vieux monsieur qui bouge à peine. Il n'est pas si vieux et plutôt costaud. Le Socrate de ton village côtier. Il m'a expliqué qu'il avait appris à lire à l'école du chef-lieu de département et qu'il avait ensuite choisi de revenir. Cette manie d'inventer des lois, il me dit l'avoir contractée en jouant à l'instituteur avec des enfants. Les enfants d'il y a 20 ans. La moitié est partie ailleurs et la moitié qui est restée mène sa vie de pêcheur et lui emmène ses enfants. Les enfants d'il y a 20 ans, la moitié est partie ailleurs et la moitié qui est restée mène sa vie de pêcheur et lui emmène ses enfants. Il leur enseigne le peu qu'il sait et apprend beaucoup d'eux. Il possède aussi une barque, mais il ne va pas souvent en mer. Il préfère que les autres lui rapportent leur voyage. Ses bras forts, il les tient de la réparation des filets, sa deuxième passion. Tu vois ? Je ne peux pas sentir la pauvreté de l'intérieur, mais j'écoute. Il n'avait pas 30 ans lorsqu'il avait été agressé par mon grand-père et son ami le colonel. Pourquoi ne s'est-il pas battu? Et pourquoi n'avez-vous pas tous réagi, répondu à la violence par la violence? Ou pourquoi avoir attendu pour brûler les maisons? Justin, il m'a dit que les choses devaient se passer ainsi. Que les arbres laissent bien tomber leurs feuilles, que personne au village n'avait mis le feu aux maisons. Merde, il y a 20 ans, même moi qui ne suis pas calée en droit, j'ai entendu parler de la prescription. Et quel risque prendrait-il à se confier à moi, qui partirai bientôt et ne constitue aucune menace? Je ne suis pas venue pour venger un grand-père dont j'ignorais l'existence et la nature. Je suis venue chercher l'amitié d'un absent et lui offrir la mienne, des années après sa disparition. Justin m'a révélé des choses que tu ne m'avais pas mentionnées. Que mon père ne fréquentait pas les jeunes du village simplement parce qu'il ne savait pas comment les aborder. Dans son milieu en ville, il ne fréquentait que des mulâtres. Il ne savait pas parler la langue des jeunes du village, il ne savait pas marcher pieds nus comme eux, ni faire gronder les cerfs-volants. Il avait appris à nager en suivant des cours privés dans une belle piscine de la capitale où les parents attendaient la fin des cours en devisant sur l'état du monde. Mais il admirait secrètement la grâce naturelle des nageurs et nageuses du village. Il les regardait partir en bande sur la barque d'un pêcheur. Il partait en souriant, se jetait à l'eau quand la barque s'était suffisamment éloignée du village et revenait à la nage, souriant toujours et avançant de manière nonchalante et pourtant rapide, le cœur gai, sans forcer. Il leur en voulait un peu de nager comme un enfant parle sa langue maternelle, alors que lui, il ne savait que des choses qu'il avait apprises dans des cadres régis par des lois sociales et des préjugés. Il n'osait pas non plus s'adresser aux jeunes filles, à Solène en particulier, qui avait presque son âge. Il regrettait de ne pas posséder dans son vocabulaire les mots de la légèreté et de la franchise qu'il fallait pour atteindre Solène, la ralentir dans sa course le temps qu'elle lui ouvre ses bras. Il ne possédait pas les mots. Il connaissait seulement le langage du négoce et de la roublardise dont son père usait avec les femmes, les mots surannés que sa mère collectait dans ses vieilles romances et les mots des garçons de son milieu. Quelle ironie de ne pas posséder les mots pour dire à l'autre qu'il ou elle est pour nous l'amour même. Justin en conclut que dans la distribution inégale des richesses qui règnent sur le monde, le partage inéquitable des mots n'est pas le moindre mal. Avec mes amis, nous possédons des mots pour nommer beaucoup d'objets et des gadgets. Et je n'ai pas les mots pour converser avec les enfants du village. Un groupe m'a abordé pour me demander si je souhaitais jouer avec eux. Je ne connais pas leur jeu. Je n'ai jamais joué au handball, mais j'ai essayé de m'adapter. J'ai pensé au petit monsieur de la capitale. Je l'ai imaginé sur la plage il y a 20 ans avec d'autres enfants. Je n'ai pas joué longtemps. Je n'ai pas l'habitude de courir sur les galets et les enfants m'ont dit que j'étais trop grande pour jouer avec eux, mais je serais sympa d'arbitrer leur match. J'ai arbitré, consciencieusement. C'était la première fois qu'on me confiait une telle responsabilité. C'est de la décision la plus juste pour une solution à un problème extérieur à moi. Au-delà de la banalité d'un jeu d'enfant, sans conséquence sur leur avenir ni sur le mien, j'ai apprécié la confiance qu'ils plaçaient en moi. Plus tard, j'ai réalisé qu'ils pouvaient se débrouiller sans moi et adopter sans mon aide la bonne décision. J'ai compris qu'ils voulaient me mettre à l'épreuve et j'ai eu soudain très peur. On dirait que tout, ici, d'une maison qui brûle et une partie de ballon prisonnier renvoie à la question. Quel usage faut-il faire de sa présence au monde ? À quel piège suis-je venue me livrer comme la plus naïve des voyageuses ?